Comme à chaque fois qu'il y a une assemblée générale de notre Église, le message que j'apporte tourne toujours autour d'un thème que je préfère, un de mes sujets préférés, l'Église de Jésus-Christ. L'Église pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas déroger à cette habitude, car la question que je voudrais poser ce matin est celle-ci. L'Église locale est-elle vraiment nécessaire? L'Église locale est-elle vraiment importante pour nous, pour notre vie chrétienne de chaque jour? Ne suffit-il pas d'être chrétien, point barre? Pourquoi venir à l'Église le dimanche matin? Pourquoi faire? Alors qu'on peut rester à la maison tranquille, sans rien faire, profiter de ce jour de repos pour faire peut-être la grasse matinée, rester en pyjama toute la matinée, lire, écouter de la musique, que sais-je encore? Pourquoi venir à l'église le dimanche matin alors qu'on peut profiter pour faire quelques travaux ménagers qui s'accumulent, n'est-ce pas? L'évier qui fuit, la porte qui grince. Pourquoi venir à l'église le dimanche matin alors qu'on peut peut-être sortir le matin, avec des amis, aller faire une belle balade au bord du lac Tazena, n'est-ce pas? Et ensuite, organiser un barbecue chez l'un ou l'autre. Ce serait une journée formidable, surtout si le soleil est au rendez-vous. C'est mieux sans doute cela que de se lever tôt pour certains. Se préparer, se laver, s'habiller, prendre sa voiture, chercher à se garer autour de l'église, qui n'est pas une mince affaire. Rentrer dans un petit local. Faut pas non plus exagérer, n'est-ce pas? Cette salle de culte nous a rendu service, beaucoup de services pendant une vingtaine d'années. Voir toujours ou pratiquement toujours les mêmes visages, chanter des chants archi connus, écouter une prédication qui parfois nous barbe, n'est-ce pas, comme peut-être celle de ce matin. Que faire? Aller à l'église ou succomber à la douce invitation du farniente, de la détente ou des travaux ménagers? Le passage biblique que je vous propose de lire ce matin peut nous éclairer. Il est surtout pour ceux qui se demandent si l'engagement régulier et persévérant dans l'Église vaut vraiment le coup. Il est pour ceux qui s'interrogent sur l'importance et la nécessité de l'Église locale pour la vie chrétienne. Je vous dis tout de suite, ce passage de la Bible va nous montrer que l'Église est quelque chose de très important. Quelque chose de très important, elle est indispensable même à la vie chrétienne et à l'action de Dieu dans nos vies et dans le monde. Et j'aimerais que chacun de nous ici sorte d'ici ce matin convaincu de cela, au cas où il ne serait pas encore. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, toucher nos cœurs et nous donner la conviction, cette conviction qui est la sienne, à propos de l'Église de Jésus-Christ. Alors, je vous propose d'écouter cette lecture ou de la lire, puisqu'elle va apparaître sur l'écran, dans Actes chapitre 14, à partir du verset 21. Actes 14, à partir du verset 21. Le lendemain, Paul partit avec Barnabas pour Derbe. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent élire des responsables. À main levée et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent au port d'Attalie. Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis, et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps parmi les disciples. Frères et sœurs, ce passage nous montre d'abord en quoi consistait le travail des apôtres. Paul et Barnabas sont en voyage missionnaire, c'était leur premier voyage missionnaire, il y en a eu beaucoup d'autres. Partout où ils passent, dans les différentes villes que le texte mentionne, Derbe, Pisidie, Pamphylie, Perge, Attalie, ils annoncent le message de l'Évangile de manière assez complète. Il suffit de lire les chapitres avant et nous pouvons voir qu'ils prêchent le salut par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ils prêchent la repentance, le pardon des péchés et ils s'appuient sur les Écritures de l'Ancien Testament. Le texte précise que non seulement ils évangélisaient et faisaient des disciples, c'est la phrase, n'est-ce pas, ils faisaient des disciples, mais aussi qu'ils les fortifiaient, les exhortaient et leur expliquaient la réalité des choses en ce qui concerne le royaume de Dieu. Par contre, le texte ne précise pas combien de temps cela a pris. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cela a pris du temps, car on sait que ce premier voyage missionnaire a duré autour de 2 ans. Donc ce n'était pas simplement de dire aux gens qu'ils avaient besoin de Jésus pour la vie éternelle, pour leur salut, qu'ils devaient reconnaître leurs péchés et se repentir, se tourner vers le Seigneur. Bonjour et au revoir. C'était ça, mais beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Il y avait tout le reste. Le travail d'affermissement de la foi, le travail d'encouragement des nouveaux chrétiens. Faire d'eux des vrais disciples du Christ, leur donner les outils nécessaires à la vie chrétienne. D'ailleurs, Paul et Barnabas connaissaient parfaitement l'ordre de mission que le Christ avait donné, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 28, que nous pouvons lire aussi. Allez partout dans le monde faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est exactement cela que les apôtres ont fait. Un travail de longue haleine. Paul et Barnabas évangélisent. Ils font des disciples. Ils affermissent les disciples dans la foi, les exhortent à demeurer fermes dans la foi. Il leur donne des bases solides pour vivre la vie chrétienne. Il pousse ces chrétiens en plus à s'organiser entre eux, c'est ce qu'on voit dans le texte, car il leur propose de choisir des responsables parmi eux, des anciens. Dans l'original, c'est le mot qui apparaît, des anciens. C'était comme ça qu'ils étaient appelés à l'époque dans le contexte juif. Ce mot qui avait l'idée de maturité spirituelle, de dignité, de capacité, de jugement. Bref, l'apôtre Paul leur dit de choisir des pasteurs parmi eux qui auraient la responsabilité d'enseigner, d'édifier, de diriger l'Église et de veiller sur elle. Cela nous rappelle que pour les apôtres, la vie chrétienne est un vrai chantier. La vie chrétienne, pour eux, est quelque chose qui se construit, qui doit progresser, qui doit grandir, croître. La conversion n'est pas la fin, mais le début, le commencement de la vie chrétienne, le commencement de la vie avec Jésus-Christ. Dans la vie chrétienne, on est en apprentissage continu. Le chrétien disciple du Seigneur a besoin d'être affermi dans sa foi, il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être aidé à persévérer et à demeurer dans la foi. Car, je crois que ce n'est pas la peine de le dire, tout le monde le sait, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est quelque chose de très difficile, parfois même quelque chose de très, très dur à vivre. Le chrétien a besoin de grandir en connaissance et en pratique. Il a besoin de devenir plus grand et plus solide dans sa foi pour faire face à la vie de chaque jour. D'ailleurs, n'est-ce pas la Bible qui emploie l'image de la nouvelle naissance pour parler de la conversion? L'image de la nouvelle naissance pour dire finalement ce que l'Évangile fait dans la vie d'un être humain. L'apôtre Pierre utilise cette image pour nous dire, et nous pouvons lire ce texte dans sa première lettre, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pour grandir, si nous avons goûté que le Seigneur est bon. Cela veut dire que lorsqu'on se convertit au Seigneur, on devient comme un bébé. On devient comme un bébé, on a tout à réapprendre. Notre vision et notre compréhension du monde se modifient, changent au fur et à mesure qu'on prend contact avec la parole de Dieu et avec la volonté du Seigneur. Il faut réadapter toute notre vie à ce changement de perspective. Nous avons pas mal de bébés dans notre église, n'est-ce pas, depuis un certain temps. Est-ce que parmi les mamans qui ont des bébés, il y en a qui disent à leurs enfants à la naissance, « Allez, t'es né, maintenant t'es né, débrouille-toi tout seul, t'as plus besoin de moi. » Bien sûr que non, n'est-ce pas, bien sûr que non. Les bébés ont besoin d'être entourés. Ils ont besoin d'être nourris, accompagnés, jusqu'à ce qu'ils puissent être capables d'une certaine autonomie dans la vie. Et puis, comme il y a un temps pour tout, il faut sortir de ce stade de nourrisson. Il faut grandir, il faut apprendre à marcher. Il faut apprendre aussi à manger des choses plus solides, recevoir une nourriture plus consistante pour adultes. Et à ce propos, nous avons une autre image dans la lettre aux Hébreux où l'auteur utilise cette image de la nourriture pour enfants ou nourriture pour adultes pour faire des reproches, en tout cas pour exhorter, n'est-ce pas, ces chrétiens qui ne progressent pas dans leur vie chrétienne, qui sont restés au stade de bébé, de nourrisson. Ils disent aussi dans Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11, vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Les adultes prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade d'adulte. C'est clair, n'est-ce pas? Nous sommes invités à grandir, à progresser, à avancer vers la maturité. Nous ne devons pas nous satisfaire finalement de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Il nous faut avancer, aller de l'avant, il nous faut progresser avec le Seigneur. Est-ce qu'il y en a chacun de nous ce matin ce désir de progresser dans la foi, de tendre vers la maturité chrétienne, comme la parole de Dieu nous l'exhorte? En tout cas, c'est celui-là le plan de Dieu pour chacun de nous. Et on peut dire que Dieu finalement fait le nécessaire. Il fait le nécessaire pour nous aider à parvenir à la maturité chrétienne. Il nous donne sa parole. Il nous donne sa parole pour nourrir notre foi. Sa parole qui est la nourriture de notre âme, de notre vie chrétienne. Et il nous donne l'Église. Il nous donne son Église pour nous accompagner dans notre cheminement quotidien, dans notre cheminement chrétien. La Bible utilise beaucoup d'images pour parler de l'Église. Beaucoup d'images pour parler de l'Église. Mais celle qui ressort sans doute le plus dans le Nouveau Testament, c'est l'image de la famille. L'image de la famille. Les écrits des apôtres sont ponctués, sont saturés de passages qui utilisent le langage familial. Et que ce soit cette image de la famille ou toutes les autres images, la parole de Dieu nous montre que l'Église est quelque chose d'indispensable à notre foi chrétienne. On sait par expérience, comme je disais tout à l'heure, que la vie chrétienne est difficile. Elle est en combat. Elle est en combat. D'ailleurs, lorsque Paul et Barnabas font la tournée de ces nouvelles églises qu'ils fondent, ils disent aux chrétiens, à partir du verset 22, « C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul et Barnabas sont réalistes. Ils ne trompent pas les chrétiens. Ils ne trompent pas ceux qui décident de suivre le Christ. Ils leur disent la vérité. Ce n'est pas facile. Ça va être très difficile. Il y aura beaucoup d'obstacles, des obstacles de toutes sortes qui viendront se mettre sur votre route. Il faut s'y préparer. Il faut s'entourer d'autres chrétiens. Il faut s'entourer de frères et des sœurs. Il faut s'entourer d'une famille chrétienne pour qu'ensemble on progresse, on s'affermisse, on s'encourage mutuellement, on place notre confiance dans le Seigneur qui peut nous délivrer. Et c'est là qu'on voit que l'Église est indispensable. Car l'apôtre Paul et Barnabas non seulement affermissent et encouragent ces chrétiens, mais ils l'aident aussi à s'organiser. Ils l'aident aussi à s'organiser. S'organiser en Église, à rester ensemble, à ne pas se séparer. Ils structurent les Églises. Certes, c'est une petite structure qui n'est pas trop lourde. Il ne faut pas non plus que la structure et l'organisation écrase l'Église, soit en carcan. Mais on voit quand même qu'il y a un minimum à faire, n'est-ce pas, une structure qu'il donne aux Églises, afin que les chrétiens aient un lieu de vie, un lieu d'encouragement, un lieu d'affermissement dans leur foi, un lieu où Dieu envoie sa bénédiction. D'ailleurs, on peut remarquer que Paul et Barnabas, eux-mêmes, une fois leur mission d'évangélisation terminée, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à leur église, à l'église mère, à cette église qui les avait envoyés en mission, l'église d'Antioche. Et ils retournent et ils restent assez longtemps avec leurs frères et sœurs. Ils se reposent au milieu de leurs frères. L'église locale est l'œuvre et l'outil de Dieu. Et ce texte nous montre combien l'église locale est précieuse et efficace aux chrétiens. Les versets 26 et 27 raconte que Paul et Barnabas retournent donc à leur église locale au sein de cette église qui les avait confiés donc à la grâce de Dieu. C'est ce que le texte dit. Cette église qui les avait confiés à la grâce de Dieu. Il suffit de lire Actes chapitre 13. L'église est le lieu où nous nous confions les uns et les autres à la grâce de Dieu. À leur arrivée, Antioche, ils réunissent les membres de l'Église et qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent à leurs frères de ce que Dieu avait fait avec eux. L'Église est un lieu de réunion, un lieu de témoignage de la grâce agissante de Dieu dans nos vies. Ils racontent à leurs frères et sœurs comment ils ont implanté plusieurs églises dans les différents endroits. Ils le présentent d'ailleurs d'une manière assez intéressante parce que le texte dit qu'à leur arrivée, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment Dieu avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. J'aime bien cette phrase. Comment Dieu avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Surtout, cette parole des apôtres nous montre qu'ils sont bien conscients. Ils sont bien conscients que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas leur ministère à eux. C'est le ministère de Dieu lui-même, parce que les églises locales sont l'œuvre de Dieu. C'est lui qui les suscite et c'est son intention de continuer de le faire. C'est dans les églises locales que se voit donc l'expansion du royaume de Dieu dans ce monde. Lieu de parole, lieu où la parole est prêchée, la parole est enseignée, lieu d'affermissement, lieu d'encouragement, lieu de témoignage, lieu où se manifeste la grâce et la bénédiction divine. L'Église est l'outil de Dieu précieux et efficace. Au verset 24, l'apôtre Paul et Barnabas recommandent au Seigneur, avec des jeûnes et des prières, les nouveaux responsables de ces églises. En fait, ils ont fait pour ces responsables de l'Église, ces nouveaux pasteurs que les églises ont choisis elles-mêmes, exactement la même chose que les responsables de leur Église à eux, Paul et Barnabas, avaient fait pour eux au moment de les envoyer en mission. Au chapitre 13 des Actes, il nous est dit qu'alors, après avoir jeûné et prié, ils, c'est-à-dire les anciens, les responsables de l'Église d'Antioche, leur imposèrent les mains sur Paul et Barnabas et les laissèrent partir en mission. Comme ils ont été recommandés à la grâce de Dieu par leur église locale avant leur départ en mission, Paul et Barnabas vont faire exactement la même chose avec les nouveaux bergers de ces églises constituées. Ils vont recommander ces pasteurs, ces bergers, ces anciens à la grâce et à la bénédiction divine. C'est-à-dire que les églises locales sont conduites par le Seigneur lui-même. Jésus en est la tête, nous dit la parole de Dieu, et il compte agir à travers elle, là où elle se trouve. L'Église, donc, est précieuse, car c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans le monde. Elle est efficace, car elle est l'outil de Dieu pour étendre son royaume dans nos vies, dans le monde. Pour parler de l'importance de ne pas négliger l'Église, quelqu'un a donné l'illustration du téléphone. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très pratique, n'est-ce pas? C'est même indispensable. Que ferions-nous sans le téléphone aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y en a pratiquement tout le monde. Je dois être peut-être le seul à ne pas avoir un portable. Mais partout aujourd'hui, tout le monde a son portable. Mais au moins à la maison, n'est-ce pas? C'est hyper, hyper nécessaire. Donc je dirais que, pour résumer le message ce matin, que l'Église, ce n'est peut-être pas obligatoire, mais c'est essentiel, c'est fondamental à la vie chrétienne. Se passer de l'Église, c'est négliger quelque chose de précieux qui a été prévu par Dieu lui-même pour nous, n'est-ce pas, pour notre bien, pour notre épanouissement spirituel, pour notre croissance dans la foi. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais que ce passage ce matin nous encourage dans notre engagement en tant que chrétien, membre de l'Église locale. Que ce passage nous montre combien nous sommes heureux d'être membre d'une Église. Combien nous sommes heureux d'être membre d'une Église. C'est vrai que ce matin, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous avons notre Assemblée Générale. Mais je pense par exemple à ce que certaines études montrent, n'est-ce pas, par rapport au bébé. Lorsqu'un bébé n'est pas touché, lorsqu'on ne touche pas le bébé, lorsque le bébé ne reçoit pas de signes d'amour, d'affection, les études montrent que le bébé se laisse mourir, il se laissera mourir, il lui manque quelque chose d'essentiel. Les sociologues ont une branche de leur discipline appelée proxémique, qui étudie la distance de confort entre différentes personnes, selon leur degré d'intimité. Et on distingue les distances personnelles, intimes, sociales et publiques. La distance intime, c'est environ 30 cm. 30 cm. Si quelqu'un se rapproche trop de nous, surtout si c'est quelqu'un d'inconnu, n'est-ce pas, s'il se rapproche à 30 cm de nous, on risque de le repousser, n'est-ce pas? En tout cas, on sera très mal à l'aise, n'est-ce pas? Ou alors, on s'écarte. On n'aime pas que quelqu'un s'approche trop de nous, surtout si c'est un inconnu. sauf si c'est votre frère ou votre sœur. C'est au sein de la famille que tous les gestes de proximité, d'affection, d'amour se font de manière tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Tout à fait, en tout cas dans, au sein d'une famille saine. Je dirais donc que l'Église, c'est ça. C'est un lieu familial où nous pouvons toucher les autres, nous pouvons les prendre dans nos bras, où nous pouvons nous approcher de cette distance intime, et même peut-être plus, n'est-ce pas, ces fameux 30 centimètres. C'est pour cela que dans la Bible, nous sommes appelés à montrer notre affection les uns pour les autres par des actes et des gestes d'amour, parce que nous sommes une famille, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes encouragés à rester ensemble, à passer du temps ensemble, parce que nous sommes une famille, nous sommes des frères et des sœurs. C'est triste lorsque dans une église, telle ou telle personne est en train de vivre des choses difficiles et que personne ne s'aperçoit. Des choses difficiles à tous les niveaux, que ce soit au niveau sentimental, financier, physique ou que sais-je, et que personne ne s'aperçoit. Si personne ne s'aperçoit dans l'église, c'est grave. C'est grave, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a un problème, quelque part, de communion fraternelle, soit de la part de l'église, soit de la personne elle-même, qui peut-être s'écarte, qui rejette donc, que les autres s'approchent d'elle. L'Église, selon les apôtres, est une famille. Elle est unie, elle est relationnelle avant tout. Elle est là pour protéger, pour aider, encourager, donner l'équipement nécessaire à la vie chrétienne. Il ne suffit pas d'être chrétien, point barre. L'intention de Dieu pour nous est de nous donner une famille chrétienne, une famille spirituelle pour nous faire grandir, nous faire porter toujours plus de fruits. Alors nous n'avons pas le temps ce matin, mais permettez-moi de terminer avec ce passage d'Éphésiens 4, 11. Nous n'allons pas faire des commentaires autour, ce sera pour une autre occasion. Mais l'apôtre Paul dit ceci, c'est très important. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en vivant selon la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que tout le corps, que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Quel est votre regard? Quel est le regard que vous portez sur l'Église de Jésus-Christ? Quelle est la place de l'Église dans votre vie? Est-ce que nous reconnaissons vraiment la valeur de l'Église locale en tant qu'œuvre précieuse, en tant qu'outil de Dieu pour nous bénir? Est-ce que nous voyons les autres comme des frères et des sœurs dans l'Église ou comme Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce que nous vivons comme membres d'une famille? Est-ce que nous avons des gestes d'affection, d'amour les uns pour les autres? Ou est-ce que nous avons peur de l'intimité? Puisse la parole de Dieu nous encourager à avoir le regard de Dieu sur son Église.